culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditeur, auditrice, bonjour. Tu es peut-être au bord d'un lac au Canada, tu es peut-être dans une maison au fin fond de Madagascar ou encore en train de faire ton footing. Peu importe, sois le bienvenu au culte Espoir. Alors aujourd'hui, j'embarque dans ce petit voyage d'une heure à peu près avec Marina et Amandine. Bonjour les filles.
Bonjour.
Et nous recevons pour la deuxième fois Suzanne Jacquet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai fait mes petites recherches sur Internet, mais en fait, c'est sur Internet, mais sur la chaîne Espoir Média. J'ai vu que tu travaillais dans la traduction. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus?
C'est juste, oui. Alors, ça date depuis un moment où je travaillais à l'ONU et où mon boss immédiat a créé quelque chose qui s'appelait SOS Torture.
Oh.
Et puis, il m'a demandé si je pouvais traduire un rapport d'avocat sur la situation au Chili.
D'accord.
D'espagnol en anglais. Et pour moi, c'était un très grand défi. Je ne pensais pas y arriver. Mais en même temps, j'étais passionnée par le sujet. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans la traduction, en fait, sans passer par la case école de traduction de Genève, qui est pourtant très bonne.
D'accord.
Voilà. Et après, voilà, ça s'est enchaîné.
Merci. Ouais. Sois la bienvenue ici.
Merci.
Tu es chez toi. Est-ce que tu peux nous parler, juste en quelques mots, de ce que tu vas nous parler aujourd'hui?
Alors, en résumé, c'est vraiment le nom que Dieu nous donne et tous les noms qu'il a qui résument son caractère. Alors, on ne couvrira pas l'ensemble, ça c'est sûr,
oui,
c'est
oui.
Beaucoup trop vaste.
Mais c'est passionnant.
Mais,
ouais, ça nous plaît.
Voilà.
Eh bien, que le Seigneur nous accompagne par son esprit et nous guide tout le long de cette émission.
Amen.
Alors, nous commençons tout de suite par la chronique « Dieu dans ma semaine ». Et pour le coup, j'ai une chronique, témoignage, expérience, vous voyez comme vous le voulez, en lien avec les noms de Dieu. Alors, Amandine.
Bah oui, il y a quelques années, Brian et moi avons réalisé au détour de nos réflexions et expériences que nous utilisions toujours les mêmes noms et les mêmes adjectifs pour qualifier Dieu, pour parler de Dieu et pour s'adresser à lui. Alors je t'avoue que nous sommes plutôt intéressés aux adjectifs que l'on utilisait pour louer et adorer Dieu, mais comme aujourd'hui on parle des noms de Dieu, je ne vais pas m'épancher sur les adjectifs, mais juste un petit teaser quand même. Fais le compte de combien d'adjectifs tu utilises vraiment dans tes prières ou dans tes louanges, par exemple.
Alors Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est patient, Dieu est puissant, Dieu est majestueux. Peut-être une dizaine. Pour notre part, on a fait le listing en étudiant la Bible et on a trouvé pas moins de 80 adjectifs que l'on peut utiliser pour décrire Dieu. Bon, je crois qu'on a de quoi progresser dans la variété de nos louanges pour
Absolument.
Dieu.
Absolument. Alors, par quel nom je nomme Dieu? Qui est Dieu? On avait fait plein de recherches et noté plus d'une quinzaine de noms bibliques de Dieu. Et puis, en me posant cette semaine pour réfléchir à quel nom j'utilise actuellement dans mes prières, j'ai réalisé qu'il y en avait deux qui revenaient souvent. Alors, le premier, c'est Seigneur. Alors ça, c'est le VIP. Hein. Dieu l'entend tout le temps, celui-là. Je le répète même plusieurs fois dans mes prières. Bon, Dieu est Seigneur. En vrai, ça veut dire il est mon maître, celui à qui je me soumets, celui qui m'est supérieur. Alors, suis-je toujours consciente de ce que je dis quand je dis Seigneur à mon Dieu? Voilà. Et le deuxième, bah, c'est Père.
Ouais, d'ailleurs, tu dis souvent Papa Céleste.
Oui, plutôt. Mais j'ai remarqué que j'utilise plus ce terme dans mes intercessions. Donc, quand je prie pour quelqu'un en disant bah, voilà, que notre Papa Céleste entoure de ses bras d'amour, voilà. Donc, c'est plus pour m'adresser, enfin, plus pas pour parler à quelqu'un que pour m'adresser directement à lui. Il y en a un autre que je n'utilise pas tout le temps dans mes prières, mais qui me parle tout particulièrement, c'est Elroy. Dieu est le Dieu qui me voit. On trouve ce nom notamment dans l'histoire de Hagar, servante de Sarah et Abraham, qui se trouve désespérée dans le désert, prête à mourir avec son fils. Et Dieu, dans cette histoire, est présenté comme le Dieu qui la voit. Et combien de fois, dans mes détresses, ça m'a réconfortée d'appeler Dieu Elroy, de me rappeler que Dieu me voit et que je ne suis pas seule. Quoi.
Alors, il y a le Dieu unique, aux multiples facettes, Adonai, mon maître et seigneur, Jireh, celui qui pourvoit, Rapha, celui qui guérit, Elohim, Dieu fort et puissant, El Shaddai, tout puissant, Yahvé, l'éternel, Yahvé, Sabaoth, l'éternel des armées.
Alors, un des défis qu'on s'était donné avec Brie, c'était que pour chaque nom et adjectif de Dieu, il fallait trouver une histoire de la Bible qui montre cette facette de Dieu. Il fallait trouver un témoignage autour de nous, de chrétiens qu'on connaît ou pas, qui montre cette facette. Et fallait, si on pouvait, trouver un témoignage personnel qui montre aussi cette facette de Dieu. Autant vous dire qu'on n'a pas fini d'explorer et d'échanger à ce clairement. Sujet. D'ailleurs, on avait un peu mis ce défi de côté et la préparation de ce culte m'a donné en tout cas envie de m'y replonger. Pourquoi ? Parce que connaître les noms de Dieu, c'est mieux le connaître. Et puis, c'est m'ouvrir à des dimensions de foi, d'expérience avec Dieu que je n'ai pas encore vécu ou compris ou fait mienne. Et cela m'évite aussi d'enfermer Dieu dans une boîte, dans une définition bien humaine et limitée. C'est m'ouvrir à l'immensité de qui il est et lui offrir la louange et l'adoration qu'il mérite.
Alors la promesse du jour se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43 au verset 1. « Maintenant Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et qui t'a formé. N'aie pas peur, je te libère, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » J'aime particulièrement ce Dieu qui dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, dans tout l'univers, sait qui je suis. Sur les presque 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, nous représentons aujourd'hui, il me reconnaît, il connaît mon nom. Comme tu disais justement, Amandine, il me voit. Il n'hésite pas à m'appeler pour me rassurer dans les tempêtes de ma vie. Et j'aime particulièrement ce Dieu tout-puissant qui se fait accessible.
Amen.
Et te voici dans le culte d'espoir. Si tu nous rejoins, sois le bienvenu dans ce temps de célébration à notre Dieu. Nous entrons dans une chronique qui est chère à mon cœur, la chronique Louange en musique.
Oui.
Nous allons à présent entendre ensemble deux chants. Le premier est un chant collectif des familles Jordier, Batterie et Labiche qui nous interprète un medley, le nom de Jésus.
En toi, Père, je trouve la foi. Guide-moi. Ce que j'ai me vient de toi. Mon Dieu, purifie-moi. Change mon cœur et change ma vie. Yes. Tu ne changes pas tes promesses sans vrai. Yeah. Dieu, tu nous aimeras à jamais. Tu étais, tu le grand, yes. Je suis. Oh Dieu, tu ne changes
tu
pas.
Change pas. Yeah.
Dieu, tu nous aimeras jamais.
Dieu, tu nous aimeras jamais.
Tu étais.
Tu resteras
le grand.
tout ce que tu es reçoit la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh. Tout ce que tu es,
reçois la gloire.
Reçois la gloire
pour tout ce que
tu es. Je loue. Que tu es,
j'élèverai
ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es.
Pour tout ce que tu es, reçois la gloire.
Reçois. Je loue ton nom.
Pour tout ce que tu es,
j'élèverai
ma voix en louange. Seigneur,
je t'adore
pour tout ce que tu es.
Oh, pour tout ce que tu es.
Je t'adore
pour tout ce que tu es.
Alors aujourd'hui, nous parlons des noms de Dieu et j'aimerais te partager un témoignage qui nous parle de Dieu Yahweh Rapha, qui veut dire notre Dieu qui guérit. Alors c'est le témoignage de Edeline, qui est une chrétienne atteinte de vitiligo. C'est une maladie auto-immune qui se caractérise par des taches blanches de dépigmentation. Alors quand la société lui a collé des étiquettes, des qualificatifs qui la faisaient souffrir, Dieu l'a restaurée dans son identité. Alors je te laisse écouter ce témoignage qui est tiré du site adventiste de la Fédération France Nord.
Bonjour, je m'appelle Edeline et je vais partager avec vous mon expérience à propos de ma maladie nommée le vitiligo. Le vitiligo est une maladie de la peau où la peau se dépigmente. Cela peut toucher notamment les mains, les pieds, les genoux, les coudes, mais également le visage. En ce qui me concerne, sur certaines parties de mon corps, je suis blanche. Je ne suis pas née avec le vitiligo, mais je l'ai eu très jeune, vers l'âge de 2 ans. Au sein de ma famille, j'ai toujours été acceptée telle que j'étais. Ma famille est unie et soudée. Et je me souviens encore que durant mon enfance et ma jeunesse, ma mère m'a amenée dans différents hôpitaux, consulter plusieurs dermatologues pour trouver des soins et des conseils. Mais, à ce jour, en France, il n'existe pas de traitement qui soigne vraiment la maladie, car j'ai essayé beaucoup de traitements sans succès. À la maison, j'étais protégée et aimée. À l'extérieur de chez moi, c'était autre chose. Aux yeux des enfants, j'étais différente. Certains enfants à l'école se moquaient de moi ou refusaient de me tenir les mains de peur d'attraper ma maladie, qui n'était pas contagieuse. Il était très difficile pour moi de supporter ces moqueries qui m'ont profondément troublée et affectée. Cependant, j'avais aussi des amis à l'école qui m'ont acceptée telle que j'étais. J'ai grandi, je suis adulte maintenant. Les gens que je côtoie me respectent, j'ai des amis. Parfois, des enfants ou des adultes m'interrogent à propos de ma maladie et je leur réponds aimablement. Mais à cause de ce que j'ai vécu pendant mon enfance, j'ai développé un complexe. Je me demandais pourquoi Dieu m'avait créé comme cela. J'aurais aimé être quelqu'un d'autre, être normal et avoir une seule couleur de peau. J'avais du mal à reconnaître les capacités que Dieu m'avait données. J'avais un raisonnement négatif. J'étais axé sur mon apparence, mon image, et cela me faisait souffrir car cela m'obsédait. Au fond de moi, j'avais peur d'être jugée ou rejetée. Ma renaissance a commencé lorsque Dieu m'a libérée il y a 6 ans. Il a permis que je m'accepte enfin, que j'accepte mon histoire. Et je voudrais remercier Dieu parce qu'il m'a appris à m'aimer tel que je suis. Nous vivons dans un monde où l'apparence et la beauté, ainsi que le culte du corps, sont primordiaux. Dieu ne regarde pas à notre apparence physique. Que nous soyons petits, grands, minces ou forts, en situation de handicap ou valides, noir ou blanc, Dieu regarde à l'intérieur de notre cœur. C'est à cause du péché originel que nous avons des maladies et des défauts physiques. Dieu aime toutes ses créatures, en dépit de leur apparence ou de leurs défauts physiques. Une de mes amies m'a dit un jour que je suis la preuve vivante que le racisme n'a aucun sens puisque je suis noire et blanche. Et j'ai trouvé sa réflexion intéressante. Aujourd'hui, je peux dire comme David, dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Aujourd'hui, je me regarde sans difficulté dans le miroir. Je me sens bien dans ma peau. Je peux dire que même si les taches blanches sont toujours là, je suis guérie et je suis en paix. J'ai retrouvé le sourire. Dieu est pour moi mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Seigneur, tu es ma force. Ton nom est la victoire sur tout ce qui m'accable. Alors, je vous invite à célébrer le nom de Jésus, le Tout-Puissant. Il a vu ma tristesse, j'étais plongée dans la détresse. J'ai crié à Dieu, il a entendu ma voix. Il m'a relevée et il a révélé les qualités ainsi que les valeurs qu'il a placées en moi. Dieu m'a redonné goût à la vie et aujourd'hui je peux dire qu'elle a un sens grâce à lui. Dieu désire se servir de vous et de moi pour lui rendre gloire. Célébrez-le!
Alors, Suzanne, les noms de Dieu, la parole est à toi.
D'accord, merci beaucoup. Alors, comme début de réflexion, il y avait entre autres cette chose que Dieu dit dans le livre d'Exode à Moïse. Il dit, « T'as trouvé grâce à mes yeux, je connais ton nom. » Et ça m'a induit toute une réflexion autour de du nom qu'on a nous et les noms aussi sous lesquels Dieu se présente. De nos jours, le nom d'une personne établit son identité, mais très souvent sans signification particulière. Selon les cultures, il y a des gens qui ne savent même pas ce que signifie leur nom. Et pourtant, pensons à toutes les fois où on est gêné de ne pas se souvenir du nom de quelqu'un qu'on rencontre, et on essaye d'esquiver le problème dans la conversation. Et puis, après, tout d'un coup, quelqu'un surgit et on serait censé faire les présentations. Ah, oui, et là, terrible, c'est mort. Terrible. C'est vraiment terrible. Ou alors, les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui parlent souvent de leurs amis. Et si on n'arrive pas à se souvenir de qui était l'ami, alors ils ne sont pas contents
tu
du tout.
Pas écouté, tout
à oui, 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 oui. Non, c'est vraiment très, très important, malgré tout, même si on n'a pas cette culture de savoir ce que signifie chaque nom. Et à l'inverse, comment on se sent bien quand même quand quelqu'un se souvient de notre nom, alors qu'on l'a peut-être rencontré qu'une fois, mais on se sent important aux yeux de cette personne parce qu'il se souvient de notre nom.
C'est vrai, ça.
Et alors, en réfléchissant au nom, si on commence tout au début de la Bible, on voit que l'activité principale d'Adam, c'était de nommer les animaux. Et on se dit, c'est incroyable. Pourquoi est-ce que ça avait une importance? Ben, manifestement, Dieu voulait déjà montrer à quel point pour lui, le nom est important pour toutes ces créatures, y compris les animaux, et il a confié cette tâche à Adam. C'était un privilège pour lui. Et dans la Bible, cette importance du nom tient aussi beaucoup au fait qu'il y a une relation entre le nom et la personne, sa nature profonde qu'il a pour but de révéler. Il exprime des fois la personnalité à tel point qu'il est dit vraiment que connaître le nom, ça va être le connaître de manière intime. Quelque chose à quoi nous accrocher pour mieux connaître la personne. On a un exemple incroyable dans le récit de Genèse 32, lorsque Jacob lutte avec l'ange, puis qu'il lui dit « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et puis l'ange répond « Pourquoi tu demandes mon nom ?» Et il le bénit là. Donc il ne répond pas, il ne donne pas son nom, mais il le bénit. Et un peu plus loin, toujours dans l'Ancien Testament, quand un ange apparaît pour promettre un enfant à un couple, Manoah et sa femme, Manoah dit aussi de nouveau à l'ange « Quel est ton nom ?» afin que nous te rendions gloire, parce qu'il voulait pouvoir dire à quelqu'un « Je te rends gloire de cette promesse qui va s'accomplir. » Et puis l'ange lui dit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » On a déjà entendu dans un chant tout à l'heure, il est merveilleux. Et une traduction dit « C'est un mystère, c'est une chose cachée. » Donc, selon la Bible, vraiment, connaître le nom, c'est entrer dans le secret de la personne qui le porte, le connaître et établir une relation vraiment privilégiée. Et Jésus, quand il était sur terre, il a dit des choses très importantes sur cette notion de connaître et le nom. Quel rapport ? Dans le fameux passage où il dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent », après il dit celui qui entre par la porte est le berger, donc il parlait de lui-même. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et ça, on le sait quand on est dans une foule ou quelqu'un. On veut que quelqu'un nous entende. Si on dit juste « Oh, oh, oh », ça ne va rien donner. Il faut pouvoir donner le nom pour que la personne dans la foule se retourne et dit « Ah oui, c'est moi ». Et donc, il est dit que les brebis, à leur tour, donc elles sont appelées par leur nom, elles connaissent sa voix. Donc, ça veut dire qu'elles ont passé du temps avec lui déjà, elles connaissent sa voix. Mais on voit que ce n'est pas seulement connaître sa voix, mais aussi son nom. Parce qu'un peu plus loin, dans le Nouveau Testament, lorsque la lettre aux Hébreux, qui était en fait une sorte de prédication qui était faite aux Hébreux, l'auteur, il dit, là je vais lire exactement, « Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, Dieu nous a parlé par son Fils. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. » Donc, on a déjà cette notion du nom. Le Fils, c'est à la fois un nom et un statut par rapport à son Père. Et on va y arriver aussi plus tard. Et il est dit à ce moment-là, Dieu lui a donné un nom plus grand que le nom des anges. Donc, ce nom, on voit qu'il n'était pas juste un épithète qu'on a collé comme ça pour... comme on peut choisir n'importe quoi, c'était un nom plus grand que les anges parce qu'il devait jouer un rôle encore plus grand que les anges. Et puis David, dans le beau psaume 9, qui se chante souvent tel quel chez les chrétiens, c'est « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie. » Et il finit ce petit bout-là avec « Je chanterai ton nom ». On a eu des très beaux chants où on chantait le nom, les noms. Et on voit que pour David, c'était très, très important. Et son fils, Salomon, qui a reçu une mesure de sagesse toute spéciale de la part de Dieu, lui, il a dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Donc l'idée, le nom n'est pas abstrait pour lui. C'est une tour où on peut se mettre en sécurité. Ouais. Et à l'époque, c'était encore plus fort, cette image, évidemment, pour les gens. Donc, connaître son nom, qui semble si important, c'est en fait, dans le cas de Dieu, connaître tous ses noms, comme on l'a déjà évoqué dans les chroniques et dans les chants, dans ce qui révèle de lui. Car il y a une richesse incroyable dans laquelle Dieu se présente tout au long de la Bible sous ses différentes facettes. Parce qu'il est tellement grand que si on n'avait qu'un nom...
On ne peut pas résumer.
On ne peut pas.
C'est pas possible.
Voilà. Et on voit que Ésaïe, 700 ans avant la naissance du Christ, quand il a prophétisé pour dire que le Christ allait venir, il s'est exclamé « Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné ». Il a reçu l'autorité d'un roi. Donc là, c'est de nouveau peut-être des rôles, des statuts, enfant, fils, roi. Et après, il dit, on lui donne pour nom. Et déjà, il se lance, conseiller merveilleux, toujours cet adjectif qui revient, c'est vrai, Dieu fort, père pour toujours. On avait fils, enfant, et maintenant on a père. Donc ce fils qui est donné est aussi un père pour toujours, puisqu'il est un avec son père. Et prince de la paix. On avait roi et prince. Donc, on voit que impossible de le résumer en un seul nom. Et en Christ, ce Dieu mystérieux et merveilleux nous est pleinement révélé. Et entre autres, il est dit qu'il sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour tous ceux qui ont la chance de vivre ça. De sentir que Dieu est avec nous à travers ce Emmanuel. Et Jésus, avant de partir au ciel, dans une prière très, très longue et belle qui nous est rapportée, quand il parlait à son Père avec ses disciples, il dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore ». Il aurait pu dire plein de choses, « Je leur ai fait connaître ton caractère », mais non, c'était résumé, « Je leur ai fait connaître ton nom », ça veut dire « qui tu es ». Et il y a plein d'autres promesses qu'on n'aura pas le temps de les citer tous, mais il y en a une que j'aime aussi beaucoup, c'est dans Ésaïe, l'Ancien Testament, « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » Et puis, à celui, toujours dans Ésaïe, « À celui qui vaincra, je donnerai un caillou blanc. » Et sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, je ne sais pas si vous avez fait partie d'une troupe de scouts, où vous avez reçu un nom de totem, et des fois, il y a des petites cérémonies où on écrit, justement.
Oui, moi, je suis Ararona.
Ah, jolie, jolie. Voilà, très bien.
Moi, je n'ai pas eu la chance d'être totemisée, mais au scout, oui.
Voilà, exactement. Et... Donc, cette image d'un caillou blanc avec ce nom que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est un cadeau, encore un cadeau qu'il va faire. Et dans Apocalypse, qui peut aussi se traduire Révélation, le dernier livre de la Bible, il dit à celui qui vaincra, de nouveau, cette notion de vaincre, grâce à lui, « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Donc, ce n'est pas un caillou cette fois-ci, c'est une colonne. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ça fait beaucoup de noms quand même. Hein? Heureusement qu'il y a de la place sur une colonne, un peu plus que sur un caillou. Donc, aux yeux de Dieu, donc, ce nom et ces autres noms à lui qui veut inscrire sur nous, dans nos cœurs, ça veut dire que c'est sa manière de nous habiter aussi, avec de dire à quel point il nous connaît, qu'il veut nous connaître toujours plus et qu'il veut nous offrir une identité. Mmh. Et on voit que Dieu a même offert de nouveaux noms à certaines personnes dans la Bible, hein, qui s'appelaient Abraham et qui sont devenus Abraham, etc. Je ne vais pas les nommer parce
Jacob,
que...
Jacob, dont tu parlais tout à l'heure, Israël.
Exactement, exactement. Et ce nom, à l'époque, ça correspondait vraiment à un nouveau rôle, quelque chose qu'ils allaient faire dans la mission qu'ils avaient avec Dieu, à un nouveau caractère qu'il allait aussi leur donner. Voilà. Mais donc... C'est vraiment vital qu'on connaisse les noms de Dieu pour mieux le connaître, lui, afin que des relations s'établissent. Et quand Moïse se met à écrire le premier livre de la Bible, il commence avec le Créateur, le mot El, Elohim, pour dire le pluriel. Et puis après, ben, on a déjà évoqué certains de ces noms qui vont être donnés tout au long. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Elyon, le Dieu Très-Haut. El Olam, le Dieu d'éternité, et tant d'autres. Et après, donc, aussi des titres qui dévoilent d'autres façons, facettes encore de sa personnalité. Adonai, le Seigneur, souverain sur tout. Mais, et c'est là qu'on va aboutir à cette notion que Jésus, de tous les noms qu'il aurait pu qualifier son Père, celui qui met au-dessus de tout, c'est celui que tu as évoqué tout à l'heure, c'est Abba.
Super.
En araméen, c'est Abba, c'est mon papa. Et à un moment donné, dans Jean 20, il dit « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon père et votre père, mon Dieu et votre Dieu. » C'est le nom de Dieu par excellence qu'il a révélé en Jésus. Et il nous donne, en disant tout de suite là, « Mon Dieu et votre Dieu, mon papa, ton papa. » Il donne cette idée que cette notion de fils-fille de Dieu est quelque chose qui est contenu dans le nom et qu'on peut nous oser appeler le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, et on peut oser l'appeler papa. Le fait même qu'il affirmait par là que Dieu était son père, les gens autour de lui qui n'acceptaient pas cette idée-là voulaient le tuer à cause de ça. Ce nom, de s'adresser à son père comme papa, c'était un privilège qu'il ne devait pas, d'après les autres. Et pourtant, il l'affirme et il le promet à nous. Et puis, Jean, qui était connu comme un disciple que Jésus aimait de manière toute particulière, lui, il dit, à tous ceux qui ont reçu cette parole, et on sait que la parole, c'est Jésus lui-même, parce que Jean l'a expliqué en long et en large pour dire que la parole était Dieu, Jésus était la parole, à tous ceux qui croient en son nom. Et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, de nouveau, le nom. Parce qu'on peut dire « je crois », mais « je crois en son nom ». Pourquoi en son nom? À cause de tout ce qu'on a vu, de ce que ça révèle le caractère. Et dans une lettre aux Éphésiens, Paul dit « Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption ». Donc, on a Jésus qui est dans cette relation d'Abba avec son Père, et nous, on a la chance d'être par adoption aussi, de pouvoir s'adresser à ce Papa. Et alors, il est même dit dans Galates, « Nous avons reçu cet esprit d'adoption par lequel nous crions Abba ». Et je crois qu'il y a des fois où on crie vraiment. Ouais. On peut crier de joie, on peut crier de tristesse, on peut crier d'angoisse, mais on peut crier ce nom « Abba ». Et c'est une manière de dire « Oui, je veux te connaître comme Jésus t'a connu. Je veux, à travers Jésus, être ton fils, ta fille, et te connaître par ce nom de Abba ». Et quand on a ce papa dans le ciel, c'est complètement autre chose que le petit Papa Noël, hein, qui descend du ciel avec des cadeaux plus ou moins, voilà, par milliers. Mais c'est tellement flou, c'est tellement kitsch, c'est des, hein, c'est une image qu'on a associée. Mais là, ce Papa dans le ciel, c'est totalement autre chose parce qu'il est vraiment descendu du ciel et il est descendu avec le cadeau par excellence qui était lui-même. Il est descendu avec ce cadeau-là qu'il a voulu donner, qu'il nous a donné. Et pas seulement pour nous sauver, pas seulement juste pour nous éviter le danger, pas seulement pour nous... Oui, pour qu'on soit juste bien en sécurité, mais pour qu'on entre dans cette relation, qu'on puisse vraiment trouver dans le nom de ce papa, Abba, qu'on puisse y trouver refuge. Comme le disait Salomon, qu'on puisse y trouver la tour forte où on se sent en sécurité. Et puis, Jésus, quand il disait à ses disciples qu'il allait monter au ciel, il dit qu'il allait monter pour préparer une place pour chacun, pour qu'on y soit. Parce que c'est normal si on est un fils et une fille, c'est normal qu'on habite ensemble. La plupart des gens, il y a des familles maintenant où c'est compliqué des fois de vivre au même lieu. Mais au fond, si on fait partie de la famille, si on connaît ce papa, on a envie de vivre là où il est. Et puis c'est ça aussi que Jésus a promis à ce moment-là. Et puis, il nous promet donc ce nom pour cette relation. Il nous promet qu'on peut vraiment appeler ce Dieu très haut, notre papa. Et voilà, je vous laisse avec cette idée-là.
Merci.
Merci. Merci. Auditeur, auditrice, tu viens peut-être de nous rejoindre et sois le bienvenu au Culte Espoir. Alors Suzanne, tu nous as parlé des multiples noms de Dieu et nous venons d'arriver dans cette chronique « Dieu dans les arts ». Et Marina, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors on l'a vu, hein, la Bible regorge de noms de Dieu différents. Je ne les connais pas tous, certains me sont familiers, d'autres bien plus éloignés. J'en saisis quelques-uns et pour d'autres encore la profondeur mais encore inconnue. Et j'aimerais te partager ces noms de Dieu qui ont été mis en musique par jésuschristlabonnenouvelle.fr. Bonne écoute.
Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est
Il est Elohim, Dieu juge créateur.
Yahweh, Seigneur Jéhovah.
El Elyon, le Dieu très haut.
Adonai, Seigneur, Maître.
El Shaddai, Seigneur Dieu tout-puissant. El Olam,
le Dieu éternel.
Le Dieu de l'éternité.
Le Dieu de l'univers.
Le Dieu des jours anciens.
Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoira.
Le Shiloh, le Pacifique.
Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit.
Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière.
Il est
Kana,
jaloux.
Jéhovah Mkadesh, l'Éternel qui te sanctifie, l'Éternel qui te rend saint.
L'astre qui sort de Jacob.
Le sceptre qui s'élève d'Israël.
Le maudit de Dieu.
Le chef de l'armée de l'Éternel.
Jéhovah Shalom, l'Éternel paix.
Jéhovah Tsabaoth, l'Éternel des armées.
Le rocher de mon salut.
La lumière du matin quand le soleil brille.
Une matinée sans nuages.
Il est l'arbitre, l'intercesseur.
Courant
couronné avec une couronne d'or pur.
Il est le rocher de mon salut,
un objet de bénédiction pour toujours.
Il est l'abandonné,
un ver et non un homme.
Jéhovah Ra, ma restauration.
Le roi de gloire, celui qui règne éternellement sur son trône.
Un étranger, un inconnu.
Il est mon rocher protecteur, mon rocher et ma forteresse.
Le plus beau des fils de l'homme.
Le rocher que je ne puis atteindre.
Le rocher de ma force.
Il est un rocher qui me sert d'asile.
Une pluie qui tombe sur un terrain fauché,
comme des ondées qui arrosent la campagne.
Il est le rocher de mon cœur, le bouclier, le rocher de mon refuge.
Il est le roi et le sacrificateur à la manière de Melchisédek.
Un frère dans le malheur.
Il est l'ami qui aime en tout temps.
Une pierre précieuse.
Un ami plus attaché qu'un frère, un parfum qui se répand.
Il est mon bien-aimé.
Un bouquet de myrrhe.
Une grappe de troène, un narcisse du Saron.
Un lys des vallées, le chef de 10 000.
Son aspect est comme le Liban.
Toute sa personne est pleine de charme.
Il est mon bien-aimé, mon ami.
Il est saint, saint, saint.
Il est un sanctuaire, une grande lumière.
Un fils qui nous est donné.
Le Dieu puissant, le Père éternel.
Un enfant nous est né, le prince de paix.
Une bannière pour les peuples.
Le clou enfoncé dans un lieu sûr.
Un refuge pour le faible.
Il est un refuge pour le malheureux dans la détresse.
Un ombrage contre la chaleur.
Un abri contre la tempête.
Il est le rocher des siècles.
Une couronne éclatante et une parure magnifique.
Il est une pierre éprouvée.
Un refuge contre la tempête.
Il est comme des courants d'eau dans un lieu desséché.
Il est comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée, comme un abri contre le vent.
Il est le roi dans sa magnificence.
Il est mon berger, le Dieu d'éternité.
Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.
Il est la lumière des nations.
Une alliance avec le peuple.
La flèche aiguë.
Glorieux.
Il est le Saint d'Israël, homme de douleur.
Méprisé, rejeté, abandonné, frappé, blessé, meurtri.
Mon créateur.
Mon époux.
Le Dieu de toute la terre. Le témoin auprès des peuples.
Un chef, un dominateur, le rédempteur.
Il est puissant,
mon médecin.
Jéhovah Tzidkenu,
l'éternel, notre justice.
Il est leur roi David,
mon bercail, mon pasteur.
La plantation de renom, Jéhovah Shama, l'éternel est ici.
Il est le chef des chefs,
le Messie,
le conducteur.
Un abri pour les enfants d'Israël,
un refuge pour son peuple.
Celui qui domine sur Israël.
Il est roi de toute la terre.
Il est le feu du fondeur, la potasse des foules.
Mon purificateur. Le soleil de la justice.
Il est Jésus.
Yeshua.
Emmanuel.
Dieu avec nous.
Il est né en tant que roi des Juifs.
Il est le chef, le Nazaréen, l'époux.
Il est doux, humble de cœur.
Il est celui de qui le Père a dit, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir.
Le Fils du Dieu vivant, Jésus le Christ.
La pierre, le bâtisseur, le prophète de Nazareth.
Il est livré, raillé, moqué, crucifié.
Le Saint de Dieu, mon frère, le charpentier.
Il est celui qui donne sa vie en rançon.
Il est le Fils du Dieu béni, le Fils du Dieu très haut.
Il est Dieu, mon sauveur, une corne de salut.
Le soleil levant d'en haut.
Un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Le salut de Dieu.
Il est la gloire de ton peuple, Israël.
Le maître du sabbat, ma guérison.
Le Christ de Dieu, mon serviteur, l'élu de Dieu.
Il est ressuscité.
Il est un prophète puissant en œuvre et en parole.
Il est la parole.
Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Il est la lumière des hommes, la véritable lumière.
La parole a été faite chair.
Le Fils unique qui est dans le sein du Père.
Il est l'agneau de Dieu. Le docteur, le don de Dieu.
Le Messie, le pain de Dieu, le pain de vie, ma nourriture.
Mon breuvage.
La lumière du monde, la porte des brebis.
Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis.
L'envoyé de Dieu.
Il est la résurrection, le roi de la fille de Sion.
Il est le grain de blé.
Il est la lumière.
La lumière.
Mon maître et seigneur.
Il est mon exemple.
Il est le chemin, la vérité et la vie. Le cèpe de vigne.
Il est flagellé, couronné d'épines,
crucifié.
Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
Il est élevé,
glorifié,
le saint et le juste.
Le prince de la vie, loin, le prince et sauveur.
Jésus-Christ, le Seigneur de tous.
Jésus de Nazareth, la victime propitiatoire.
Jésus-Christ, notre Seigneur.
Il est le premier-né entre plusieurs frères.
Il est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement.
le Seigneur de tous, le Libérateur,
le Seigneur des vivants et des morts,
le Serviteur des circoncis.
Il est ma sagesse, ma justice, ma sanctification, ma rédemption.
Il est le fondement, ma Pâque, le rocher spirituel,
le chef de tout homme.
Il est le dernier Adam, l'esprit vivifiant, l'image de Dieu.
Il était un don ineffable, il est ma paix.
Il est l'offrande, le sacrifice, le chef suprême de l'Église.
Il est celui qui remplit tout en tous.
Il est un serviteur obéissant qui s'est humilié lui-même jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Il est le Seigneur Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible.
Le premier-né de toute la création.
Le créateur de toutes choses.
Le premier-né d'entre les morts.
Il est la tête du corps de l'Église.
Il est le chef de toute domination et de toute autorité.
Le tout en tous, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même.
Il est le Seigneur de la paix, notre espérance manifestée en chair.
Il est le justifié, le médiateur, le juste juge.
Le grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ.
Son trône est éternel.
Éternel.
Il est le soutien de toutes choses.
Il est l'empreinte de sa personne, le reflet de sa gloire.
Il est Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Le pasteur des brebis.
Le grand pasteur qui a été ramené d'entre les morts.
Il est le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Et sa chair est le voile qui a été déchiré.
L'autel, l'offrande, le précurseur qui est entré.
Le sacrificateur, le souverain sacrificateur.
Le grand souverain sacrificateur.
L'intercesseur, le garant, le testateur.
Le prince du salut, le chef et le consommateur de la foi.
Il est le roi de justice, le roi de paix.
Il est couronné de gloire et d'honneur.
Il est le tenté, le miséricordieux, le fidèle.
Il est saint, innocent, sans souillure, le séparé.
Il est la perfection,
mon aide.
L'agneau, sans défaut et sans tache.
Il est la pierre vivante, une pierre angulaire.
Il est une pierre précieuse, sans péché, injuriée.
Le souverain pasteur qui paraîtra.
L'étoile du matin, mon sauveur.
Il est la parole de vie. Il est la vie éternelle qui était auprès du Père.
Il est Jésus-Christ, le juste, le sauveur du monde.
Il est le véritable,
l'avocat. Il est Jésus-Christ. Il est le premier-né d'entre les morts.
Il est le prince des rois de la terre.
Il est
le tout-puissant, celui qui est, qui était, qui vient.
Il est le commencement et la fin.
Il est l'alpha et l'oméga.
Il est
le premier et le dernier.
Il est
le vivant.
Il est
l'arbre de vie.
Il est
la manne cachée.
Il est
le témoin fidèle et véritable.
Il est
l'Amen.
Il est
le commencement de la création de Dieu.
Il est
le lion de la tribu de Juda.
Il est
l'agneau qui a été immolé.
Il est
l'agneau au milieu du trône.
Il est
le Seigneur Dieu, roi des nations.
Il est
le Seigneur des seigneurs.
Il est
fidèle et véritable.
Il est
couronné de mille couronnes.
Il est
la parole de Dieu.
Il est
le roi des rois.
Il est
le temple.
Il est
l'étoile brillante du matin.
Amen. Moi, ça en fait des noms et des adjectifs. Hein. Ils en ont trouvé plus que nous, je crois.
Il
n'y
a pas photo.
Alors, Suzanne, tu as accepté d'être notre invitée au culte Espoir et nous t'en remercions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur toi et ta vie de foi. Parce qu'au-delà des réflexions spirituelles, tu es surtout une enfant de Dieu, comme tu disais, qui croit en Jésus. Serais-tu d'accord de répondre à quelques questions pour cette chronique ?
D'accord.
Alors, quels sont les noms de Dieu et les adjectifs pour décrire Dieu que tu affectionnes tout particulièrement ?
Voilà, alors vous vous étonnerez pas que je dise Abba en premier.
Forcément.
Mais aussi ce Yahvé Jireh, c'est l'éternel pourvoir avec cette histoire d'Abraham où le sacrifice, c'est Dieu qui l'a pourvu ce sacrifice, donc Dieu pourvoira. Puis il y avait Rapha, l'éternel qui guérit, je l'ai appris récemment, en fait, le nom d'une amie de ma fille qui s'est mariée, Raphaël, et puis ma fille devait faire un discours, puis on a regardé ensemble pour, voilà. Et c'est là que j'ai compris que Rapha, enfin, je ne le connaissais pas.
Moi non plus, en fait.
Je ne le connaissais pas, ce nom-là, que Raphaël fait référence à ce nom-là, l'éternel qui guérit. Et puis aussi, comme tu as dit tout à l'heure, Elroy.
Celui qui te voit.
Oui, Agar dans le désert et des fois où on a l'impression que les gens ne nous voient pas quand on fait notre chemin, puis on n'est pas vu, mais de Dieu, on l'est toujours.
Puis du coup, tu utilises ces noms dans tes prières ou c'est juste tu t'y raccroches?
Je dirais plus que je m'y raccroche, mais après tout ce que vous m'avez raconté et tout, et ce que j'ai vécu aussi dans la préparation de ce message, je pense que ça pourrait être quelque chose de chouette dans la prière aussi.
Ouais, tout à fait.
Plus fort, oui.
Mais justement, tu parles de prière. Est-ce qu'il y a une manière de prier que tu as l'habitude de faire particulièrement ou qui te...
Alors, quelque chose qui me parle beaucoup, c'est prier autour d'une promesse.
C'est un problème biblique du coup.
Voilà, exactement, de prendre une promesse biblique. Je l'ai beaucoup fait en petit groupe aussi, avec des mères. On était tout un groupe de mères à prier pour nos enfants, mais aussi en privé. C'est quelque chose qui me parle.
Du coup, tu prends la prière, enfin la promesse, puis tu la dis en prière ou...
Oui, et puis prier autour de vraiment autour de ça, en disant, pour la réclamer, pour la faire mienne, pour mieux la comprendre aussi.
Tu dis dans la parole,
en
nanana,
quoi? Oui, exactement. Coup, tu l'as dit, voilà, comment ça pourrait s'appliquer dans ma vie.
Ok, trop chouette. Voilà. Est-ce qu'il y a un verset qui te parle particulièrement?
Alors là, c'est sans hésiter. C'est depuis que je l'ai entendu dans un vieux film qui s'appelle Chariot de feu, sur l'histoire de... Voilà, vous connaissez cet athlète qui s'est confié en Dieu pour quelque chose auquel il croyait. Et c'est « Ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles ». Je prends dans une traduction que je connaissais moi, mais « Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir ». Et ça, voilà, Ésaïe 43, c'est vraiment mon verset préféré.
Amen. Ben, on va rester sur ce verset. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces petites questions. Tu es vraiment béni dans ton quotidien avec le Seigneur.
Merci beaucoup. Merci.
Et toi alors, cher auditeur, chère auditrice, si je te posais les mêmes questions, tu répondrais quoi?
Est-ce que Suzanne, tu souhaiterais nous unir dans la prière?
D'accord. Oui. Oui, Papa, Abba, nous venons vers toi pour te dire toute notre reconnaissance parce que tu nous vois et tu nous connais par notre nom. Et pas seulement ça, mais tu as promis de nous donner un nom nouveau. Et tu as permis que nous puissions nous adresser à toi en toute simplicité, comme des fils et des filles, aimés par toi. Et je te prie de rester avec nous par rapport à ce que nous avons vécu, ce moment de culte, par rapport à ton nom, par rapport au nom que tu veux nous donner, que ça puisse faire écho dans nos cœurs toujours plus et que nous puissions sentir que connaître ton nom, connaître tes noms et que tu nous connaisses, c'est un moyen de vivre cette relation privilégiée, intime avec toi, de nous sentir vraiment en sécurité, de pouvoir nous livrer sans fard l'un à l'autre. Je te remercie de toutes les assurances, que toutes les promesses que tu nous donnes, y compris par rapport à ces noms, et qu'elles puissent devenir partie intégrante de notre vie quotidienne. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen. Amen.
Alors Amandine, j'ai envie de dire passons à l'action, qu'est-ce que tu nous proposes pour la semaine?
Alors tout au long de ce culte, nous avons évoqué différents noms et adjectifs pour qualifier Dieu et toi. Les connais-tu vraiment? Pour cette chronique action, j'aimerais te proposer de réfléchir aux noms et adjectifs que tu utilises pour t'adresser à Dieu, pour le nommer, pour le louer. Peut-être note-toi ces noms quelque part, fais-toi une petite liste. Et puis prends ta Bible, Réfléchis aux témoignages que tu as déjà entendus, aux témoignages de ta propre vie. Peut-être prends une concordance sur Internet ou va réécouter l'audio que Marina nous a fait écouter dans la chronique Dieu dans les arts. Et rallonge ta liste avec d'autres adjectifs. Cherche les autres noms de Dieu. Tu peux en faire un sujet de prière, que le Seigneur t'éclaire sur qui il est pour qu'il t'aide à explorer ces multiples facettes qui enrichissent ta compréhension de qui il est à travers ses noms et ses adjectifs et qui enrichissent ton vécu de louange et d'adoration du coup, parce que tu vas pouvoir utiliser tous ces adjectifs et ces noms pour t'adresser à lui. Et puis dans un deuxième temps, j'aimerais te proposer un temps de prière personnelle avec Dieu pour qu'il t'indique, si ce n'est quel nom, quels adjectifs lui utilise pour te qualifier, toi. Nous, ses enfants, nous sommes ses bien-aimés, ses tendres, ses courageux enfants. Il saura, à sa manière et adapté à ta manière de l'entendre, te souffler ses mots d'amour.
Eh bien, merci Amandine, merci. Et puis, belle découverte à toi, auditeur, auditrice. Alors, l'émission touche à sa fin. Merci à toi, Suzanne, d'être venue pendant ces deux cultes. Merci aussi à vous deux, Amandine et Marina, pour vos partages.
Plaisir,
merci. Et auditeurs, auditrices, merci d'être restés avec nous. Sois bénis. Et voilà, que tu sois accompagné par Dieu personnellement cette semaine. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.